Africa.
Les rendez-vous santé d'Africa Radio, présentés par Aïssa Thiam et Nadir Djenad.
Bonjour à tous, nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir pour notre rendez-vous hebdomadaire avec la santé. Nous retrouverons nos invités tout à l'heure pour parler diabète et Covid-19. C'est la deuxième partie de l'émission, la partie prévention en partenariat avec Santé Publique France. Mais nous commençons comme d'habitude avec le journal présenté par Nadir Djenad.
Les rendez-vous santé d'Africa Radio, le journal.
Bonjour, bienvenue Nadir.
Bonjour Aïssa, bonjour à tous, ravi de vous retrouver de nouveau pour le journal de la santé. Et nous commençons avec l'actualité liée à la Covid-19 sur le continent africain. Au Sénégal, l'administration pénitentiaire a autorisé la reprise des visites aux détenus à partir d'aujourd'hui, en invoquant une baisse des contaminations par le nouveau coronavirus dans le pays. Le Sénégal a déclaré depuis le 2 mars dernier 14 919 cas de nouveau coronavirus et 309 décès. Le Kenya a organisé lundi 28 septembre une grande conférence nationale sur la Covid-19, un rassemblement voulu par le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, pour faire le point de la situation et tirer les enseignements de l'épidémie, alors que la courbe s'aplatit, 700 décès et 36 168 malades, et que le nombre de nouveaux cas est en baisse. À l'issue du débat, le président Uhuru Kenyatta s'est adressé à la nation. Il a annoncé un nouvel allègement des restrictions, mais maintient les écoles fermées. Au Zimbabwe, justement, les écoles, le collège et lycée n'ont pas rouvert leurs portes comme prévu lundi, après 6 mois de fermeture liés à l'épidémie de Covid-19. Les 8 syndicats enseignants du pays ont lancé un mouvement de grève illimité. Ils dénoncent notamment le manque de moyens et d'équipements pour se protéger de la pandémie. Hors du continent africain, c'est l'un des pays européens les plus endeuillés par la pandémie de nouveau coronavirus. La Belgique a franchi hier la barre des 10 000 morts. Selon les chiffres de l'Institut de Santé Publique Sciences Sano, le pays recensait hier 10 001 décès et 117 115 cas positifs au total. Aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé lundi la distribution de 150 millions de tests rapides pour détecter le nouveau coronavirus en 15 minutes. Cette méthode, comparable aux tests de grossesse, est bien plus rapide que les tests moléculaires utilisés depuis le début de la pandémie. De nombreux experts de santé publique aux États-Unis militent depuis des mois pour l'utilisation de ces tests dits antigéniques, peu coûteux, afin de permettre aux gens de se tester plusieurs fois par semaine au besoin. En France, plus de 800 nouveaux malades de la Covid-19 ont été placés en réanimation en une semaine, dont 165 sur les dernières 24 heures, selon les chiffres publiés dernièrement par Santé Publique France. Enfin, l'Institut Pasteur de Lille a identifié une molécule prometteuse dont le nom n'a pas été dévoilé dans la lutte contre la Covid-19. Elle a été testée sur des cellules de singes infectées par le virus et le composé a montré une efficacité sur des cellules de poumons humains, selon l'Institut Pasteur de Lille.
Les rendez-vous santé d'Africa Radio, le dossier.
Aujourd'hui, Nadir, dans le Zoom, ce chiffre qui fait froid dans le dos, le seuil du million de morts dues à la Covid-19 a été franchi.
En effet, Aïssa, le 11 janvier 2020, un premier mort dû au coronavirus SARS-CoV-2 était officiellement enregistré en Chine. 8 mois plus tard, la maladie qui l'entraîne, la Covid-19, a entraîné la mort d'au moins 1 million de personnes, selon un décompte établi lundi dernier par l'agence France-Presse. Le coronavirus a toujours une circulation très active, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. 1 million est un nombre terrible, a déclaré le directeur des situations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan. Le seuil du million de morts dû à la Covid-19 a donc été franchi, un palier tragique, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
Notre monde vient de franchir un palier tragique. 1 million de vies fauchées par la pandémie du Covid-19. Ce chiffre est étourdissant. Nous ne devons jamais perdre de vue chacune de ces vies. Il est alors souvent impossible de faire son deuil ou de commémorer la vie d'un être cher. Et nous l'entrevoyons toujours par la fin de la propagation du virus, de la perte d'emploi, de la perturbation de l'éducation et des bouleversements dans nos vies. Nous devons surmonter ce défi, mais nous devons apprendre de nos erreurs. Un leadership responsable compte, la science compte, la coopération compte et la désinformation tue. Et alors que la recherche intensive d'un vaccin qui doit être disponible et accessible à tous, se poursuit. Faisons notre part pour sauver des vies. Maintenant, la distanciation physique. Portons un masque. Lavons-nous les mains. Et tandis que nous commémorons toutes ces vies perdues, il ne faut jamais oublier que notre avenir dépend de notre solidarité en tant que peuple uni et en tant que Nations unies.
Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
Nadir, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique a été relativement épargnée par la pandémie de coronavirus.
L'OMS a indiqué que plus de 80% des Africains contaminés par la Covid-19 restent relativement en bonne santé. Cette situation est due, entre autres, selon l'OMS, à la jeunesse de la population du continent et au climat qui, avec les mesures de restriction, contribue à ralentir les contaminations. Selon l'OMS, la plupart des Africains touchés par la pandémie sont asymptomatiques. Cette situation contraste fortement avec les autres continents et s'explique par plusieurs facteurs socio-environnementaux. Cependant, les personnes âgées sont très vulnérables au virus, même sur le continent africain. Et dans plusieurs pays, il y a une mobilisation pour les protéger. Exemple, au Bénin, où une femme, Boria Dagia, dirige une plateforme qui regroupe une quarantaine d'associations de personnes du troisième âge, une association basée à Cotonou. Cette plateforme regroupe 10 000 membres. Elle évoque la stratégie mise en place pour éviter aux seniors d'être contaminés.
Nous avons pris des mesures radicales et adéquates pour protéger nos membres et surtout pour mobiliser et sensibiliser les personnes du troisième âge à travers les radios, la télévision et autres. Au niveau de Radio Topa seulement, nous avons tous les mardis une heure d'antenne où nous parlons de ces mesures-là. Sur KPFM aussi, à l'OFTB aussi, nous avons des heures d'antenne. Et pour nous, le port des masques est obligatoire, quelle que soit la réunion, quel que soit le nombre. L'État béninois en a pris des mesures très fortes. Il y a même eu des kits alimentaires qui ont été distribués à des personnes âgées. Nous avons reçu des masques que nous avons distribués et que nous continuons encore de distribuer. La question qui est récurrente, qui revient toujours, c'est à quand la fin d'abord de ce mal-là qui pratiquement ne nous laisse pas vivre sainement comme on l'aurait voulu. Personne ne peut donner la réponse.
Boria Dagia, qui dirige donc une plateforme regroupant une quarantaine d'associations de personnes du troisième âge à Cotonou, au Bénin. Elle était interrogée par nos confrères de BBC Afrique.
En revanche, Nadir, en France, on parle de deuxième vague épidémique.
En effet, les derniers chiffres publiés par Santé publique France en début de semaine ne sont pas bons. Plus de 800 nouveaux malades de la Covid-19 ont été placés en réanimation en une semaine, dont 165 sur les dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France. La résurgence de la pandémie de Covid-19 avec l'augmentation du nombre de cas positifs et d'hospitalisations fait craindre une deuxième vague de mortalité importante comparable à celle du printemps. Comment les hôpitaux se préparent? Écoutez le professeur Olivier Bouchot, chef du service de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Avicenne à Bobigny, près de Paris.
Je pense que la première vague s'est jamais vraiment arrêtée. Il y a eu une baisse de la transmission du virus, mais manifestement, elle s'est pas arrêtée complètement. Là, elle reprend. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus de cas, de plus en plus de cas symptomatiques, et qu'on peut craindre un automne et un hiver un petit peu compliqués. On s'est organisé pour pouvoir accueillir plus de patients, mais il y a un élément nouveau par rapport à la période de mars-avril, c'est que, comme il n'y a pas de confinement, et je pense que personne ne le souhaite et ça aurait certainement des conséquences très très lourdes sur le plan économique et social. Mais comme il n'y a pas de confinement, du coup, les autres malades qui ont des maladies X et Y qui ne sont pas Covid sont là. Et la grosse difficulté, c'est qu'il va falloir faire face à un nombre croissant vraisemblablement de patients Covid, au rythme habituel de prise en charge des patients non-Covid. Et donc on se retrouve dans une situation, où on va se retrouver dans une situation où ça va être très compliqué, parce que on pourra pas supprimer des lits dans les autres services, parce qu'il y aura la pathologie quotidienne à prendre en charge, et où on a un nombre limité de lits, et notamment réanimation.
C'était le professeur Olivier Bouchot, chef du service de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Avicenne à Bobigny, près de Paris.
Vous saurez tout à présent sur la santé 2.0 et les innovations avec Saleh Dingaku, qui nous parle cette semaine d'une application qui peut sauver des vies. Bonjour Salah.
Hier, ce jeudi, je vais vous parler de Save Life, une application qui permet d'aider à secourir quelqu'un. Notre application est avant tout citoyenne plus que technique. Tout le monde peut sauver une vie, même sans être formé au premier secours. C'est ce que le cofondateur de l'application a expliqué il y a quelques mois. Celui qui a l'application devient citoyen sauveteur. Il est alors susceptible d'être contacté par le SAMU via l'application. Exemple simple, un homme appelle un numéro d'urgence. Les symptômes qu'il décrit sont ceux d'un malaise cardiaque. Le régulateur du SAMU ou des pompiers peut alors décider de lancer une alerte via l'application Save Life qui géolocalise les inscrits. Objectif, que quelqu'un intervienne avant même que le secours n'ait le temps d'arriver sur place. Une notification est alors envoyée sur le téléphone du citoyen sauveteur. S'il accepte d'intervenir, l'application lui indique alors le chemin afin qu'il puisse retrouver la victime à pied en quelques minutes. S'il a été formé au premier secours, il met en œuvre les gestes qu'il connaît. S'il n'est pas encore formé, un médecin du SAMU le guide par téléphone jusqu'à l'arrivée des pompiers. Les accidents cardiaques sont une des premières causes de mortalité. Pour réduire le nombre de morts, il faut agir rapidement. La survie se joue durant les 10 premières minutes. Les délais d'intervention des pompiers sont en moyenne de 13 ou 14 minutes. Parfois moins, parfois plus dans certains lieux éloignés. D'où l'importance de mobiliser des citoyens. Depuis un an et demi, Save Life a recruté plus de 400 000 citoyens sauveteurs. L'application est disponible sur iOS et Android.
Merci beaucoup Saladin Gakou. On se retrouve la semaine prochaine pour présenter une autre innovation aux auditeurs d'Africa Radio. Merci beaucoup Nadir Djenad pour ce journal. On va se retrouver dans un instant, c'est juste après la pause, avec nos invités en direct sur le plateau d'Africa Radio. Nous parlons diabète et Covid-19 aujourd'hui avec nos invités Sandrine Fossé-Dor et coordinatrice du programme de surveillance du diabète au sein de Santé Publique France. Nous rejoignons également le docteur Louis Potier du service d'endocrinologie, diabétologie, nutrition au sein du centre du groupe hospitalier Bichat Claude Bernard à Paris. Et nous serons également au téléphone avec Stéphane Besançon, il est directeur général de l'ONG Santé Diabète basée au Mali. Il nous rejoindra en direct de Bamako. On se retrouve avec nos invités dans un instant, bougez pas.